Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cela fait un peu plus d'un an que Donald Trump est à la tête des États-Unis et qu'il décline jour après jour son slogan « America First ». À ce leitmotiv du président américain qui traduit une forme de repli des États-Unis et un désengagement du monde, les Européens ont d'abord été interloqués, mais ils ont réagi. Face à un président imprévisible qui boude le temps, il revendique désormais une autonomie, voire une indépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Et pour la première fois depuis des décennies, la défense européenne a fait un grand pas via une coopération structurée permanente. Quant aux menaces plus ou moins voilées dans le domaine du commerce et de la fiscalité, elles obligent la Commission européenne à être désormais plus active et moins naïve. Et si finalement Donald Trump avait réveillé l'Europe? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Nicolas Dungan.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. L'IRIS est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, américain et français depuis quelques semaines. Bienvenue en France. Martin Cancez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au German Marshall Fund of the United States.
Voilà, donc notre siège est basé à Washington, mais il n'y a aucun lien avec l'administration ou le gouvernement américain.
Jean-Dominique Julienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman, fondation européenne que l'on connaît bien ici à Carrefour de l'Europe. Alors, Nicolas Dungan, avant de parler de l'impact de Donald Trump en Europe, j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots ce que signifie la présidence Trump pour les Américains. Et pour préciser un peu ma question, est-il pour les Américains l'expression d'une forme de fierté retrouvée à travers son slogan « America first » ou au contraire est-il la manifestation d'une perte de confiance en soi des Américains ?
Mais il est les deux. Cela montre un clivage, et d'ailleurs j'irais jusqu'à dire une crise d'identité, qui existe aux États-Unis depuis bien longtemps d'ailleurs. Pour aller loin dans l'histoire, les 6 premiers présidents des États-Unis était plutôt d'éducation européenne. Et puis vient le général Jackson, qui est le 7e président, et qui est le Far West, il vient du Tennessee, qui était le Far West de l'époque, spolier la nature, tuer des Indiens, conquérir des territoires. Et cette dichotomie dans la personnalité américaine existe toujours. Et donc, la base, comme on dit, de Trump, c'est plutôt cet America First. Et cet America First, on l'a déjà vu. America First, c'était le slogan de ceux qui voulaient, de Charles Lindbergh dans les années 30, mais aussi le slogan de ceux qui voulaient éviter d'immiscer les États-Unis dans les
problèmes du monde.
Le bassonnement des problèmes du monde, mais les complexités de la société des nations, par exemple. Donc, pour les Américains qui vivent sur les côtes, qui sont plutôt d'éducation moderne, européenne, plutôt des sociodémocrates, Trump est une horreur. Et pour sa base, c'est effectivement l'expression d'une Amérique qu'il souhaite retrouver, mais qui, en fait, n'a jamais exister.
Alors, Martin Cancez, est-ce que l'Amérique de Trump se désengage du monde? Alors, Barack Obama, son prédécesseur, avait privilégié l'Asie-Pacifique au détriment de l'Europe. Est-ce que lui aussi, déjà, il avait eu cette tentation du repli sur soi, donc du repli sur soi? Est-ce que c'est donc une tendance un peu forte des États-Unis?
Alors, c'est une question qui se pose, en fait, depuis la fin de la guerre froide. Est-ce que les Américains, finalement, vont se retirer de l'Europe et les Européens, de manière assez cyclique, se posent cette question, s'inquiètent du futur de l'engagement américain, notamment en Europe. On peut discuter si Barack Obama s'était véritablement désengagé. En vérité, il y avait peut-être deux parties dans sa présidence. Une première partie où il a souhaité, rééquilibrer son engagement. Et puis à partir de la crise, d'abord en Ukraine, puis du combat contre ISIS en Syrie et Irak, il y a un réengagement. Pour Donald Trump, on a, pendant la campagne, parlé d'isolationnisme. Moi, je ne pense pas que Donald Trump soit isolationniste du tout. Il a une vision peut-être nationaliste, en fait, de sa politique étrangère, qui considère que les intérêts des États-Unis sont peut-être plus étroits que ce qu'on avait pensé auparavant. Mais lorsque ces intérêts sont attaqués, il n'y aura aucun problème, aucune contrainte à utiliser la force et à s'engager violemment dans les affaires du monde. Donc c'est une vision, plus brutale de ce qui avait été amorcé par Obama. Je ne pense pas qu'on puisse parler de désengagement, et je pense qu'on va voir dans les différents conflits, on l'a déjà vu d'une certaine manière avec la décision de frapper en Syrie lors de la première année de ce mandat, On a déjà vu que l'utilisation de la force et l'engagement dans le monde ne fait pas peur à Donald Trump.
Jean-Dominique Giuliani, est-ce que vous diriez, d'un point de vue européen, que les Américains ont renoncé à exporter leur mode de vie, que l'on a longtemps cru universel ?
Non, je dirais que le monde a beaucoup changé et qu'il y a eu un rééquilibrage de la richesse, du développement, de la croissance dans le monde qui modifie pour les Américains comme pour tout le monde les conditions de la stabilité internationale, des relations internationales. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, même pour la première puissance militaire économique du monde, de faire le gendarme comme elle a pu le faire. Et je rajouterais que quand elle a utilisé la force ces derniers temps, ça n'a pas été un succès. C'est-à-dire que l'Afghanistan, l'Irak, on ne gagne plus aujourd'hui, comme auparavant, la stabilité par la force uniquement. Je pense qu'ils n'ont pas renoncé, nos amis américains, à l'utilisation de la force.
La politique de la canonnière, en quelque sorte.
Mais que l'efficacité. Et donc, l'efficacité est différente. Et donc, je pense que pour l'Europe, je pense qu'entre l'Europe et les États-Unis, les liens forts au plan économique, politique, demeurent, qu'ils sont, à mon avis, incontournables pour longtemps encore, mais que, pour l'Amérique, se posent des problèmes d'identité, comme le disait Nicolas tout à l'heure, sur sa place dans le monde, son rôle dans le monde, qui sont toujours en débat à l'intérieur. Est-ce qu'on doit s'impliquer vraiment pour faire la police partout, ou est-ce qu'au contraire, on doit être plus raisonnable et économiser un peu d'argent alors que la dette augmente ?
Nicolas Zetangen, comment les Américains se voient-ils dans le monde aujourd'hui ?
Hésitant, justement parce que ce que disait Jean-Dominique Giuliani est vrai, c'est que les dernières expéditions militaires n'ont pas été des réussites. Hésitant, et surtout, c'est cette crise d'identité interne, le fait que le pouvoir d'achat du foyer moyen a connu une croissance de zéro depuis 40 ans, contrairement à beaucoup d'endroits en Europe. En France, c'est aux alentours de 130-140%. Mais il y a aussi, je pense que c'est important, surtout pour le carrefour de l'Europe, de se demander comment ils voient l'Europe. Et l'Europe, pour les Américains, c'est trois ou quatre choses différentes. D'abord, c'est l'OTAN. C'est les alliés, nos alliés, les Européens. C'est une vision très Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, il y a l'Europe des États. Troisièmement, l'Europe des nations. L'Europe des nations, d'où viennent nos ancêtres.
Ça laisse peu de place pour l'Union européenne.
Exactement. Et la quatrième place, c'est l'Union européenne, qui est considérée comme une sorte de parce que il faut se rendre compte aussi que la plupart d'Américains, relativement éveillés, reçoivent leurs informations sur l'Europe de la presse anglaise. Et donc, ils lisent The Economist, The Financial Times, et ils voient, même ces organes qui sont de très haute qualité, donnent quand même un point de vue un peu britannique, un peu externe. Donc, il y a très peu de vues internes de l'Europe. Et donc, pour les Américains, l'Europe n'est pas tellement un trait d'union, mais plutôt un point d'interrogation, parce que l'Europe va beaucoup mieux que les États-Unis sous beaucoup d'angles. Tout ce qui est importé de l'Europe, c'est de haute qualité. La croissance de la zone euro est en avance sur celle des États-Unis. Mais l'Europe, c'est plutôt la terre de nos ancêtres, c'est les gens qu'on a sauvés à deux fois. Et si on pense que le Brexit représente une Grande-Bretagne un peu nostalgique pour elle-même, la même chose est vraie de l'Amérique. Il y a une autre chose qui est très importante, à mon avis, et qui est très sous-estimée, et qui donne lieu en partie à cette crise d'identité, c'est que depuis Reagan et Thatcher, c'est quelque chose dont il est extrêmement difficile de se rendre compte quand on est en France, en Allemagne, en Italie. Depuis Reagan et Thatcher, l'idée même de l'intérêt général a disparu aux États-Unis. Et donc les gens qui se bataillent pour les intérêts particuliers considèrent que le cumul des intérêts particuliers équivaut à l'intérêt général. Or, c'est faux. L'intérêt général, c'est le sacrifice des intérêts particuliers pour l'intérêt général. Et ça, cette idée-là a disparu en Grande-Bretagne. Et donc, parce que les Anglais, depuis 40 ans, ont un mode de vie
depuis
beaucoup
Thatcher,
plus... Depuis Thatcher, ils ont un mode de vie beaucoup plus européens et des valeurs qui deviennent beaucoup plus américaines. Et donc, en fait, ça nous a valu le Brexit en Grande-Bretagne et ça nous a valu Trump aux États-Unis.
Et alors, ce sentiment, justement, que l'intérêt général disparaît, en tout cas, de l'état d'esprit des Américains, ça date de quand, à votre avis?
C'est un processus, comme en Grande-Bretagne depuis Thatcher, je pense que c'est un processus qui s'est instauré depuis Reagan. Et en plus, en écho de ce qu'il disait Martin Quincez, c'est depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide que les États-Unis se cherchent aussi. Parce que ça ne va plus très bien, et Clinton, en politique étrangère, a essayé de le laisser faire, mais il a surfé sur la vague de l'Internet, etc., et de l'expansion des marchés. Ensuite, George W. Bush, après le 11 septembre, dont on vraiment sous-estime, à mon avis, l'importance historique, hein, George W. Bush a essayé l'agressivité. Ça n'a pas marché, comme disait Jean-Dominique Giuliani. Ensuite, Obama a essayé une sorte de retrait ordonné où les États-Unis se comporteraient comme un pays comme les autres. Ça n'a pas marché. Et Trump essaie America First et ça ne marche pas.
C'est peu dire, en tout cas, que les Européens ont été déconcertés par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, un président évidemment imprévisible. Nous ne reconnaissons plus notre Amérique, explique et dit à qui veut bien l'entendre Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères allemand, notamment par les propos qu'a tenus Donald Trump à l'égard de l'OTAN, pilier de la défense en Europe, et que je résume en quelques mots, pour les Américains, l'OTAN est dépassée, elle coûte trop cher aux Américains, et les Européens vont devoir se prendre en charge. En conséquence, nous allons nous désengager, c'est un peu le point de vue américain, propos qu'il a un peu adouci par la suite, Martin Quincez, tout de même.
Oui, alors sur l'OTAN, c'est un débat, encore une fois, qui ne démarre pas avec Donald Trump. On se rappelle que, par exemple, en 2011, on a eu un discours du secrétaire à la Défense Gates sur l'OTAN, qui était peut-être encore plus dur vis-à-vis des Européens que ce que Donald Trump avait pu faire, en insistant sur le fait que les Européens étaient un peu sortis de l'histoire, avaient complètement oublié d'augmenter leur budget de la défense et d'avoir finalement sacrifié la sécurité transatlantique. C'est quelque chose qui a structuré les relations transatlantiques au moins depuis George Bush, et aujourd'hui Donald Trump a, disons, comme d'habitude, une rhétorique qui choque, mais dans le fond, c'est encore une fois des questions de temps long. Une fois encore, il faut regarder si on parle d'Europe de l'Ouest ou d'Europe peut-être centrale ici. Si vous êtes à Varsovie, l'engagement américain n'a jamais été aussi fort aujourd'hui.
Il est renforcé. C'est vrai qu'il y a un déploiement.
Les sommes qui partent du Pentagone pour soutenir les différentes opérations de réassurance donc vis-à-vis de la Russie dans la région donc des pays baltes et en Pologne a fortement augmenté sous Donald Trump. Il n'y a aucun signe, selon nos collègues polonais, d'un désengagement américain. Au contraire, ils ont, pour eux en tout cas, toutes les raisons d'être ravis de ce qui a été décidé depuis un an. En Europe de l'Ouest, je pense que le souvenir de cette stratégie du pivot vers l'Asie qui avait été imaginée par Barack Obama reste dans nos esprits. Cette idée que le 21e siècle pour les États-Unis sera un siècle pacifique, dans le sens de l'océan Pacifique, et donc que les relations transatlantiques, c'est très 20e siècle. C'est très has-been. Et à terme, les États-Unis verront leurs intérêts économiques et stratégiques d'abord vis-à-vis de la Chine et de son environnement en Asie. Ça, c'est deux visions, finalement, au sein de l'Europe, de l'engagement américain dans le monde. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais je ne pense pas que Donald Trump soit une rupture. Ce sont encore une fois des questions qu'on se posait depuis 10 ans.
Alors, en tout cas, Jean-Dominique Giuliani, les Européens ont bien entendu ce message un peu ambigu, de réunion de l'OTAN au sommet européen jusqu'à la conférence sur la sécurité de Munich il y a une quinzaine de jours. Ils ont au moins musclé le discours sur le thème de l'autonomie, voire de l'indépendance stratégique. Et puis ils ont pris quelques initiatives, les fameuses coopérations structurées permanentes, plus un fonds de soutien à la recherche en matière de défense, coopération à la carte, mais qui a séduit 25 pays de l'Union Européenne sur 27 ou 28, ça dépend comment on compte. Ce qui s'est passé quand même en décembre, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est tout de même significatif.
Oui, d'une évolution des esprits, mais ça reste extrêmement modeste, n'est-ce pas? En réalité, il y a, loin de la coupe aux lèvres, avant que l'autonomie stratégique de l'Europe soit assurée, sur le plan de la défense de son territoire, puisque tout ça concerne en réalité les intérêts européens à l'extérieur. C'est une conception française qui gagne du terrain en Europe difficilement, il faut bien le dire. La France a toujours, depuis le général de Gaulle, voulu être à la fois l'allié des Américains, on n'a pas de problème avec ça, mais en même temps être autonome, d'où la force de frappe, de dissuasion, etc., etc. Ce n'est pas du tout partagé par nos partenaires, y compris à l'Ouest, que ce soit les Néerlandais ou surtout les Allemands, qui eux ont toujours confié leur défense, y compris sur le plan nucléaire, puisqu'il y a des armes nucléaires américaines sur le territoire allemand, ce qu'on ne dit pas assez aux Allemands d'ailleurs, hein, pour défendre le territoire allemand. Et donc, finalement, les Américains, à juste titre, peuvent estimer que l'Europe ne paie pas pour sa sécurité et surtout n'a pas la volonté de se défendre, n'est-ce pas ? Il y a une exception, c'est la France. Et, comment dirais-je, l'élection d'Emmanuel Macron, son leadership incontestable en Europe et sur la scène internationale, a contribué à faire bouger les choses, à accélérer ces mouvements avec quelques signes, une coopération structurée permanente, c'est-à-dire en fait quelques programmes d'équipements militaires qui vont être financés par le budget européen. C'est une première. Enfin, vraiment, c'est négligeable par rapport aux enjeux. Et puis, comment vous dire, on a bien vu à la conférence sur la sécurité à Munich, il y a encore, dans la tête de nos alliés allemands et même partout en Italie, aux Pays-Bas et a fortiori dans l'Europe de l'Est, l'idée que face au grand continent, la Russie et voire la Chine un jour, seuls les États-Unis peuvent nous donner la force de nous défendre. Et ça, pour l'Europe, c'est une question existentielle. On peut à la fois être l'allié des États-Unis, je pense que les Français se sentent les alliés des États-Unis, mais à la fois être plus indépendant, plus autonome, parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes.
Mais il y a quand même...
C'est ce que ne comprennent pas les Européens.
Alors, mais je reviens là au propos qu'a tenu Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères allemand. Nous ne reconnaissons plus notre Amérique, Nicolas Dungan. Il y a quand même un désintérêt de plus en plus grand des États-Unis vis-à-vis de l'Europe.
Oui, mais encore faut-il, comme disaient Jean-Dominique Giuliani et Martin Quincez, il faut voir ce qu'on veut dire par l'Europe, parce que la France n'est pas l'Europe. Et d'ailleurs, la France diverge de non seulement des opinions, mais aussi des politiques européennes, dans la mesure où justement cette idée d'indépendance nationale qui existe depuis le général de Gaulle, et pas depuis 58, mais depuis 44, n'est pas partagé dans les autres pays européens. Donc, quand Sigmar Gabriel dit ça, on peut prendre un autre exemple. John Major, l'ancien Premier ministre britannique, il a dit « J'ai été élevé pour comprendre que les Américains sont nos amis et le seront toujours ». Bon, ça, c'est une question de génération d'après-guerre. On a été sauvés par les États-Unis. Or, la France n'a même pas ce sentiment-là. On a le sentiment d'allié, mais on a le sentiment d'avoir été sauvé par des gens dont on est quand même un peu méfiant et que l'on considère comme des égaux, AUX, hein, pas EGO, ça aussi peut-être, mais où on est au même niveau. Bon, mais quand Sigmar Gabriel dit ça, c'est que il ne reconnaît plus Dwight Eisenhower, il ne reconnaît plus John Kennedy. Mais il y a une chose très importante pour reprendre cette idée de l'après-guerre, c'est que l'ordre libéral international créé par les États-Unis entre 1944 et 1947 ou 8, hein, parce que en fait on a basculé dans la guerre froide plutôt en 47 avec la doctrine Truman. Cet ordre libéral international a été créé quand le leadership américain ne pouvait pas du tout être remis en question. Les États-Unis représentaient 50% du PNB du monde. Les États-Unis représentaient de loin le premier budget militaire. Les Américains avaient oublié la Grande Dépression simplement parce que le fait de mettre les États-Unis sur un pied de guerre pour chaque femme, chaque homme et chaque enfant pendant 3 ou 4 ans avait complètement transformé l'économie américaine. Donc on était devant une Amérique qui faisait la paix, mais une Amérique qui dominait complètement cette paix, où on n'allait jamais remettre en question les idées américaines sur le FMI, sur la Banque mondiale, etc., etc.
Or, le monde a changé.
Mais c'est exactement ce que disait Jean-Dominique Giuliani. Le monde a changé autour des États-Unis. C'est pas seulement l'Amérique que Sigmar Gabriel ne reconnaît pas, c'est le monde.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, avant bien sûr de reprendre notre débat, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Tumeni dziebnia europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Cela fait un peu plus d'un an que Donald Trump est à la tête des États-Unis et qu'il décline jour après jour son slogan « America First ». À ce leitmotiv du président américain qui traduit une forme de repli des États-Unis, un désengagement du monde, les Européens ont d'abord été interloqués, mais ils ont réagi face à un président imprévisible qui boule le temps. Il revendique désormais une autonomie, voire une indépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Et pour la première fois depuis des décennies, la défense européenne a fait un grand pas, un petit pas, dirait Jean-Dominique Giuliani, à nos invités, vers une coopération structurée permanente. Quant aux menaces plus ou moins voilées dans le domaine du commerce et de la fiscalité, elles obligent la Commission européenne à être désormais plus active et moins naïve. Et si finalement Donald Trump avait réveillé l'Europe? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Nicolas Dungan, il est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégistes. Martin Quincez, chercheur au Germain Marshall Fund. Et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Alors, Martin Quincez, on était resté sur les propos assez étonnants du ministre des Affaires étrangères allemand qui disait « Je ne reconnais plus mon Amérique ».
Oui, je pense que c'est intéressant un petit peu de revenir là-dessus parce qu'il y a une spécificité allemande un petit peu dans la réaction à l'élection de Trump. D'abord parce que culturellement, et Nicolas Dungan en parlait, il y a évidemment un souvenir particulier de la relation américano-allemande. Il y a des faits historiques depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale, puis surtout pendant la Guerre froide, qui font que pour les Allemands, il y a un lien, disons, peut-être même de grands frères parfois avec Washington. Mais à plus court terme, il y a quelque chose de très important qui s'est passé pour eux, c'est la relation exceptionnelle entre Barack Obama et Angela Merkel. Et ce qui a structuré véritablement la relation transatlantique pendant presque 8 ans sous Barack Obama. Quelque chose que les Français ont pu parfois voir avec un certain agacement, puisqu'il y avait cette idée, pour appeler l'Europe, appelons Berlin. La rupture de Donald Trump pour les Allemands est totale. On a donc un président qui voyait l'Allemagne comme le premier partenaire des États-Unis et maintenant un président qui a passé toute la campagne présidentielle à critiquer Angela Merkel pour sa position sur les questions migratoires et surtout à attaquer l'Allemagne sur la question du déficit budgétaire. Alors on en revient.
Pour
Donald Trump, c'est une obsession de voir les voitures allemandes dans les rues de New York. C'est quelque chose qu'il répète. Il y a beaucoup trop de voitures allemandes. Donc pour les Allemands, ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump est fondamental. Dans d'autres pays européens, encore une fois, c'est différent.
Évidemment, on parlera de la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump, pour le moins original. Alors, Jean-Dominique Giuliani, ils sont quand même amusants, ces Américains, parce que c'est quand même une de leurs ambiguïtés. Ils en ont plein d'autres, j'imagine. Ils ont demandé aux Américains de se prendre en charge sur le plan de la défense. Et puis, aujourd'hui, ils les mettent en garde contre une autonomie qui affaiblirait l'OTAN. C'est les propos du secrétaire général de l'OTAN.
Norvégien.
À la conférence sur la sécurité de Munich.
Oui, des propos tout à fait... d'ailleurs, il ne les a pas réitérés parce qu'ils ont choqué tout le monde et ils étaient vraiment déplacés. Parce que ça lève un coin du voile sur l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas seulement un cadeau que les Américains font aux Européens. C'est aussi la défense des intérêts américains, y compris industriels, y compris en matière d'armement, y compris en matière économique. On le voit bien avec les pressions faites par les États-Unis pour que les Polonais achètent des matériels américains alors qu'ils sont gavés de crédits européens, 10 milliards d'euros par an. N'est-ce pas? Moi, contribuable français, je paye pour 10%, 10 milliards d'euros chaque année aux Polonais. Donc, c'est vrai, là, il y a un petit problème. L'OTAN, c'est aussi un instrument de l'influence américaine en Europe. Et c'est ce que sont en train de découvrir un certain nombre de pays européens. La France en était plus consciente parce qu'elle avait un autre positionnement. Alors, ça, au niveau de l'Union européenne, ça a un certain nombre d'effets. Ça réveille toute une série de choses. Vous évoquiez la Commission européenne, elle est en train de constituer un peu des instruments de défense commerciale un peu différents. On en a besoin à l'égard des Chinois. On vient, cette semaine, ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis pour préparer une réponse à Donald Trump au cas où il impose des droits de douane
sur les
assiettes.
On va y venir, évidemment, là, sur la partie commerciale et fiscale.
Donc, petit à petit, tout ça réveille un peu une Europe qui a du mal à se constituer du fait de son histoire, du fait des liens privilégiés qu'on a avec les Américains, essayer d'exister un peu sur le plan stratégique. C'est très compliqué, mais le mouvement est quand même en marche.
Alors, la défense est loin d'être le seul domaine où Donald Trump a mis en pratique son leitmotiv America First, que l'on peut traduire en français par chacun pour soi, hein, c'est une bonne traduction, je pense. Hein. Dans le domaine du commerce ou celui de la fiscalité, le président américain était également pour le moins actif. Je vous propose d'écouter sa philosophie en la matière, un court extrait de son intervention au Forum de Davos en janvier dernier.
Nous soutenons le commerce libre, mais il faut qu'il soit équitable et il faut que ce soit réciproque. Parce qu'en fin de compte, un commerce non équitable sape pour nous tous notre vie quotidienne et les États-Unis ne vont plus fermer les yeux devant les pratiques économiques inéquitables, y compris le vol massif de propriété intellectuelle, les subventions industrielles et des mesures et de la planification dirigées par l'État de façon massive. Ce genre de comportement fausse le marché international et porte atteinte au monde des affaires, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Nous attendons des dirigeants des autres pays de protéger leurs intérêts, mais en tant que président des États-Unis, je vais toujours protéger les intérêts de notre pays, de nos entreprises et de nos travailleurs.
Alors, Martin Kansas, on comprend qu'il vise là un certain nombre de pays, à commencer par la Chine, mais aussi les pays européens, hein, Donald Trump.
Oui, il y a pour Donald Trump vraiment cette obsession du déficit commercial. Et donc la Chine et l'Allemagne sont les deux premiers pays qui viennent en tête. Et il disait « bad Germany, bad » la mauvaise Allemagne. Pour lui, c'était cette idée que il y avait quelque chose de structurellement négatif dans cette relation commerciale.
La mauvaise Allemagne, c'est BMW, Mercedes, c'est
exactement.
Volkswagen.
Et à l'inverse, il faut absolument renforcer la présence des voitures Ford et Chrysler dans les rues allemandes. Il y a vraiment cette vision très presque matérialiste de la relation commerciale pour Donald Trump. Il faut des voitures, il faut relancer l'industrie du charbon. Enfin, c'est une vision, encore une fois, un petit peu ancienne de l'économie, mais ça structure sa manière de penser le commerce. Et ça veut dire, pour les relations transatlantiques, qu'on va avoir, on parlait du secteur de la défense, mais ça touchera tous les secteurs finalement, des objectifs commerciaux qui vont parfois aller à l'encontre des objectifs stratégiques. Pour la défense, il est dans l'intérêt des États-Unis de voir les Européens se renforcer, participer davantage dans les opérations de sécurité, avoir donc un pilier européen plus fort au sein de l'OTAN. Mais au niveau économique et industriel, ça ne fonctionne que si on achète américain, évidemment. Et ça, il faut, pour les Américains, réconcilier ces deux objectifs qui peuvent être contradictoires.
Et l'idée que les Européens créent un fonds pour soutenir les industries de défense européennes, ça ne plaît guère aux Américains.
Absolument, parce que pour eux, en fait, le pire serait de voir une forme de protectionnisme européen. Et c'était d'ailleurs, on a parlé des déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, mais à Munich, il y a également eu des déclarations assez choquantes de l'ambassadrice américaine à l'OTAN, Hutchinson, qui parlait tout de suite de protectionnisme européen via ce fonds pour la défense européenne. Pour eux, il y a cette crainte de voir un Buy European Act mis en place grâce à ce fonds, c'est-à-dire privilégier les entreprises européennes via de l'argent qui vient de la Commission et qui ne serait pas accessible à des entreprises américaines.
Au niveau du commerce, Donald Trump n'est pas resté inactif. Il a relevé un certain nombre de droits de douane. Ce n'est qu'un début qui a déjà un gros impact dans un secteur auquel on ne pense pas a priori. Et pour s'en convaincre, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Conséquence inattendue, il est vrai, dans un secteur marginal, celui des olives noires espagnoles. Marginal, sauf quand votre activité dépend beaucoup du marché américain.
Absolument. Un article de El Confidencial raconte comment le secteur est frappé de plein fouet par cette politique américaine. Pour comprendre, il faut remonter au début du mois de février. À ce moment-là, les États-Unis ont décidé d'imposer des droits de douane aux olives noires produites dans le sud de l'Espagne, à un taux particulièrement élevé, de l'ordre de 21,6% en moyenne. Problème, les États-Unis sont les plus gros clients des producteurs espagnols. En 2016, 32 millions de kilos d'olives ont été expédiés outre-Atlantique, où elles sont éparpillées sur les pizzas, ou alors plonger dans les martinis pour les olives vertes par exemple. Car cette mesure risque de menacer tout le secteur, selon le patron d'une entreprise andalouse interrogé par le journal en ligne. Si un client américain ne nous achète plus d'olives noires et qu'il privilégie un autre fournisseur, il est peu probable qu'il continue à nous acheter des olives vertes, s'inquiète-t-il. Il voudra s'approvisionner au même endroit. En fait, cette idée d'imposer de tels droits de douane ne vient pas de nulle part, explique El Confidencial. Elle émane des seules entreprises américaines productrices d'olives et basées en Californie. Selon ce même patron andalou, ces sociétés veulent revenir à la situation des années 90, au moment où elles importaient en vrac avant de transformer et de conditionner les olives, profitant au passage de presque toute la valeur ajoutée.
Alors Sacha, est-ce que l'Europe, et plus particulièrement l'Union européenne, a déjà réagi à ces mesures américaines ?
Eh bien oui, selon El Confidencial, mais de manière assez timide. Le ministère de l'Agriculture espagnol a alerté la Commission européenne, qui s'est simplement dit déçue face aux tarifs douaniers. La Commission a aussi souligné que ces droits de douane n'étaient valables que pour 5 ans renouvelables. Pourtant, c'est bien la PAC, la politique agricole commune, que les autorités américaines ont dans le viseur. En fait, ces droits de douane de 21,6% comprennent des droits compensatoires qui visent à contrebalancer des subventions perçues. Sauf que l'argent versé aux producteurs espagnols dans le cadre de la PAC est totalement autorisé par l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est ce qu'ont fait valoir les autorités espagnoles. Un recours auprès de l'OMC est donc envisageable, mais il prendrait plus d'un an et est donc pratiquement exclu.
Merci Sacha. Courrier international Lido et courrierinternational.com, le site
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Jean-Louis Michelinier, on voit bien que c'est compliqué hein, de travailler avec les Américains, ils sont retors et subtils.
C'est pas la première fois, on a déjà eu la guerre du vin, la guerre du fromage, maintenant la guerre des olives. Donc, chaque fois, finalement, on arrive à trouver un accord parce que les liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et l'Europe sont les plus forts du monde. L'économie transatlantique, quoi qu'on en dise, quelle que soit la croissance en Asie ou ailleurs, reste pratiquement la moitié de la richesse mondiale. Alors ça change, ça évolue, etc. Et donc les intérêts des entreprises américaines, c'est aussi, elles le démontrent, d'investir en Europe. Le grand marché unique, on le voit aujourd'hui, toutes les entreprises de la Silicon Valley font leur beurre, si je puis dire, sur le marché européen avant le marché américain. Donc si vous voulez, ces irritations, et il y en aura d'autres, je suis persuadé, avec cette administration, parce que comme le dit Nicolas Dungan, l'intérêt général n'est pas la première motivation des décisions. C'est souvent des lobbies, là encore pour les olives, c'est souvent des intérêts particuliers qui s'agrègent, et ça c'est très très mauvais, en réalité. C'est une culture qui n'est pas européenne. En Europe, on a aussi une vue globale des sujets, ce qui peut paraître pour naïf parfois, mais dans le long terme, finalement, on arrive à stabiliser les choses d'une manière plus rationnelle et raisonnable.
Nicolas Dungan, vous vouliez réagir.
Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que j'étais français, mais je suis aussi américain et d'ailleurs californien, donc je suis tout à fait favorable.
Ah, donc vous êtes un spécialiste des olives noires.
D'ailleurs, je peux vous assurer que les Américains sont prêts à payer plus cher leurs martinis, mais même si c'est à cause des olives. En plus, Jean-Dominique Giuliani aurait pu dire que les entreprises américaines qui font leur beurre, ils font leur huile d'olive, voilà. Mais je pense qu'il y a une chose aussi à comprendre dans la conception de Trump de tout ça, et qui est, comme nous disions tout à l'heure, qui est partagé par une partie de la société américaine, c'est que quand il dit America First, que vous le traduisiez par l'Amérique d'abord ou par le chacun pour soi, c'est totalement conforme à la mentalité de cette Amérique jacksonienne. Parce que aux États-Unis, chercher le compromis d'abord, c'est un peu faible. On cherche à gagner. Et Trump, malgré le fait que, en fait, ses parents étaient écossais et allemands d'origine, et qu'il aurait dû célébrer ses antécédents européens, en fait, il a une mentalité totalement du Queens, de cet arrondissement de New York qui n'est pas Manhattan, où on lutte, où on se bat. Le Queens, ça pourrait être l'Ohio ou l'Indiana.
Il le raconte d'ailleurs volontiers hein, dans ses biographies, non, lorsqu'il parle de lui-même, etc.
Totalement. Et quand il a dit, et là, il a redit à Davos, au Forum économique mondial, il a dit, moi je dis America First, et j'attends que vous disiez, vous les dirigeants des autres pays, disent mon pays first, mon pays d'abord. Or, l'idée de chercher dans la collaboration et le compromis quelque chose qui a une valeur commune. C'est un peu le même argument que l'intérêt général versus les intérêts particuliers. Mais lui conçoit le monde comme ça. Donc, quand il reproche à l'OTAN, aux autres membres de l'OTAN de ne pas payer assez, en fait, on a trouvé que c'était un problème existentiel, enfin, une remise en cause existentielle pour l'OTAN. Non, il veut simplement qu'il paye plus, c'est tout. Il a une conception très primaire, très nationaliste, hein, comme disait Martin Cancès, et en fait, et quand il dit America First, c'est pour mieux vendre des olives. C'est pas pour faire la guerre avec l'Europe. Donc, en fait, derrière tout ça, il y a une mentalité extrêmement primaire, de se bagarrer et qui gagne, et puis c'est fini.
Alors Martin Cancès, il faut quand même rappeler le gros déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Union Européenne. Je pense que la plupart des auditeurs pensent que les Américains vendent plus de produits aux Européens que l'inverse, et c'est l'inverse. Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Union Européenne, il était en 2016 de 146 milliards, dont 65 milliards d'excédents allemands. Alors Donald Trump l'a dit, les droits de douane vont augmenter pour les machines à laver le linge, pour les panneaux solaires. Là, ce sont plutôt les Chinois qui sont visés. Mais les voitures allemandes risquent d'être impactées par ces hausses des droits de douane, ce qui quand même pose un problème. Parce que on peut rappeler cette contradiction. Les États-Unis sont en théorie le pays du libre-échange, et les États-Unis sont encore, et pour un certain temps, la première puissance économique du monde.
Oui, enfin, cette contradiction, finalement, les États-Unis sont le pays du libre-échange pour les autres. D'abord, ça a toujours été un pays où le protectionnisme, l'accès, par exemple, au marché public américain a toujours été bloqué pour les entreprises européennes. C'est donc pour eux, c'est vrai que cette contradiction n'existe pas. Et en ça, et c'est ce que disait Nicolas Dungan, il faut gagner. Donc on protège ces industries et on s'assure d'avoir un bon accès dans les marchés européens ou mondiaux. Une autre chose qui va peut-être fondamentalement détériorer les relations transatlantiques dans les années à venir, c'est l'utilisation des sanctions commerciales comme moyen de pression sur les Européens. Donc ça, c'est la grande question de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Ce qui avait touché, par exemple, la BNP il y a quelques années, lorsque la justice américaine avait considéré que la BNP, ayant fait des affaires avec l'Iran lors d'une période qui était sous sanctions américaines, devait donc payer une amende à la justice américaine. Ça, c'est un moyen de pression qui Donald Trump apprécie tout particulièrement. Pouvoir utiliser finalement les tribunaux américains pour punir une entreprise européenne et donc récupérer de l'argent, tout simplement, c'est quelque chose qui va être utilisé. L'Europe cherche à trouver des outils pour contre-attaquer, mais ça va, par exemple, dans le cas français, ce sont des questions qui sont différentes, chaque cas est différent, mais on peut penser à ce qui va se passer pour Airbus, potentiellement, qui est aujourd'hui connaît un certain nombre d'enquête à la fois de la justice britannique et la justice américaine, et qui pourrait être soumis à des sanctions américaines importantes.
Même si Airbus produit partiellement ses avions et que 50% du prix de vente d'un Airbus, ce sont les produits américains.
Absolument.
À travers notamment les moteurs.
Tout à fait. Après, les Américains répondront, lorsque vous achetez un F-35 ou lorsque vous donnez de l'argent à Lockheed Martin, il y a également un certain nombre d'emplois européens qui sont financés, puisqu'il y a un certain nombre d'Européens qui travaillent pour ces entreprises américaines, ce qui est juste également. Donc, il va y avoir différents outils pour mettre en place une politique qui ne sera pas, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout une politique de guerre vis-à-vis de l'Europe, c'est pas une politique, une grande stratégie anti-européenne, c'est simplement une politique qui considère que les intérêts américains, c'est de gagner au niveau commercial, et pour ça, il faut utiliser tout ce qui est possible. Aujourd'hui, ça sera, enfin, à court terme, ce sera la Chine, ce sera l'Allemagne. Si demain, l'Inde connaît un excédent commercial qui est perçu comme une menace pour Donald Trump, ça sera l'Inde. Il n'y a rien, je pense, de fondamentalement stratégique ou idéologique derrière ça.
Alors, quelle parade européenne, Jean-Dominique Giuliani? On n'a jamais entendu Europe First, enfin, sauf un petit peu Emmanuel Macron, mais du bout
ça
des lèvres.
Ça commence. Je rajouterai, si vous permettez, un mot sous votre contrôle. les transformations de l'économie mondiale et de l'économie américaine expliquent aussi, renforcent ce que vous venez de dire, n'est-ce pas ? Les Américains ont été les artisans de cette financiarisation de la globalisation. Et maintenant, ça revient un peu en boomerang chez eux, parce que quand vous regardez la part de l'industrie dans l'économie américaine, elle s'est complètement effondrée. C'est une industrie de services. Donc, évidemment, à Detroit ou ailleurs, on le voit et on le voit et on en souffre. Et dans le même temps, les évolutions de l'Europe sont ressenties aux États-Unis d'une manière assez négative. L'Europe est la première puissance commerciale du monde, elle a le premier PIB, Nicolas rappelait tout à l'heure qu'elle a désormais une croissance supérieure à celle des États-Unis, en tout cas en 2017, l'euro challenge le dollar, n'est-ce pas ? Même si le dollar reste la première monnaie du monde, j'ai regardé les statistiques, dans les paiement direct, le dollar représente 39% des échanges commerciaux et l'euro 36%. Il y a des produits financiers mis sur le marché qui sont désormais, de manière privilégiée, y compris à Londres ou à Singapour, émis en euros. Et ça, c'est assez mal vécu de la part des États-Unis ou de la part de la partie jacksonienne des États-Unis, de la partie de Trump, mais c'est assez inéluctable. Et pendant la crise de l'euro, on a vu d'ailleurs qu'il y avait dans le monde financier, à Wall Street, des gens qui vivaient assez mal, finalement, l'existence de l'euro et qui essayaient de le jouer plutôt à la perte. Donc ça n'a pas fonctionné. Ces tendances existent toujours. Il y a là des intérêts particuliers qui s'opposent à l'Union européenne. Et dans le même temps, comme vous le disiez, en même temps, grâce, c'est vrai, aussi à Emmanuel Macron, il y a désormais une conscience de l'existence de la force de l'Europe. Petit à petit, la Commission elle-même propose des textes pour renforcer les instruments de défense commerciale. On est vraiment très très loin du protectionnisme.
Est-ce que les Européens sont en mesure de développer un multilatéralisme offensif face au protectionnisme très offensif de Donald Trump ?
Je dirais pas jusque-là, mais ils sont, si leurs intérêts sont affectés, ils vont petit à petit s'organiser mieux. Et ils en ont les moyens.
Les Européens sont moins naïfs.
Ils en ont les moyens parce qu'il y a plus d'investissements américains dans l'économie européenne que l'inverse. Et ça représente entre 300 et 400 milliards d'euros chaque année, ce qui est considérable. Donc les intérêts américains, c'est aussi que l'économie européenne se porte bien. En tout cas, c'est les intérêts de la Silicon Valley et des grands fonds américains qui privilégient aussi l'Europe. Sauf quand l'Europe a un genou en terre, là, on voit que les intérêts sont parfois un peu différents.
Est-ce que, avec Donald Trump, on coche la case, le multilatéralisme s'est fini définitivement?
Non, je crois pas, je crois que le monde s'est transformé, parce que ce que Nicolas et Martin décrivent très bien chez Trump, c'est le chacun pour soi, c'est devenu un peu la règle sur la scène internationale, n'est-ce pas? Malheureusement, on voit que le multilatéralisme lui-même s'effondre partout, on voit à la conférence de Munich, les Israéliens, les Iraniens, chacun vient et développe sa thèse, personne, à un moment ou à un autre, ne contribue à un ordre international collaboratif ou coopératif, ce qui est assez préoccupant. La Russie joue son jeu, la Chine joue le sien. Il n'y a plus que l'Europe pour porter un peu ce message coopératif. Et donc Donald Trump, il s'inscrit dans cette tactique-là. Je pense que les intérêts américains de long terme, c'est aussi une communauté internationale organisée, la défense de l'ordre libéral, des libertés, et que l'Europe et les États-Unis se retrouveront là-dessus dans les moments difficiles.
Un tout petit mot, Martin Cancez, avant de laisser la conclusion à Nicolas Dungan. Malgré le départ des Américains de l'accord de Paris sur le climat, celui-ci continue quand même à vivre, notamment grâce au soutien de la Chine et bien sûr des Européens, ce qui illustre quand même un peu l'isolement des États-Unis. Le monde continue à fonctionner sans les États-Unis.
Oui, alors en fait, très vite après l'élection de Donald Trump, tous les pays se sont demandés comment faire fonctionner finalement cet ordre international si les États-Unis décident de se retirer d'un certain nombre d'accords. Alors l'accord du climat, on pensait également à l'accord sur le nucléaire iranien. Comment finalement garder, préserver ce qu'on considère comme des bonnes choses pour nous d'avoir cette structure internationale malgré un retrait américain. Moi, je suis un petit peu sceptique à l'idée d'avoir une forme de multilatéralisme qui consisterait à se tourner vers la Chine pour compenser le départ américain. Alors, il semblerait que c'est une stratégie chinoise. Le discours, je crois, l'année dernière à Davos de Xi Jinping avait véritablement été marqué comme la Chine devient le promoteur du libre-échange et justement de cet ordre international. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, il me semble. Mais pour les Européens, il va s'agir finalement de préserver ce qui peut l'être pendant 4-8 ans, en espérant qu'après le départ de Donald Trump, les choses retournent ou en tout cas changent d'une manière un petit peu plus favorable. Moi, je ne suis pas sûr non plus qu'après Trump, on en est fini.
Alors justement, Nicolas Dungan, la question de fin, elle est pour vous. Est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump? C'est pour prolonger l'interrogation de Martin Quincez.
Il ne survivra même pas à un deuxième mandat de Trump parce que tout change, comme disait Jean-Dominique Giuliani. Et en fait, on va confronter à un monde qui est passé d'un multilatéralisme structuré à une sorte de plurilatéralisme mouvant, et les États-Unis en font partie.
Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on doit dire, nous, les Européens, merci à Trump? Parce que, quelque part, il est un accélérateur de la construction européenne.
Non, je crois que c'est le monde qui a changé. Trump n'est qu'un exemple de ce que ça peut faire. Aux États-Unis, on voit d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, les changements aussi et le populisme, disons-le aussi, ont triomphé pour un temps et mettent le pays en difficulté. Je crois qu'il faut juger tout cela dans le long terme. Il y a quand même le camp des pays où on est libre, et puis il y a le camp des pays où il y a de plus en plus d'autocrates, de dictateurs, malgré tout ce qu'on peut dire de Trump, on n'en est pas là. Les États-Unis ont des institutions et nous sommes quand même dans le même camp. Et si je dis ça, c'est avec gravité parce que je vois les changements du monde, les rapports de puissance. Xi Jinping va être désormais le leader maximo à vie. Poutine, le président à vie. Erdogan, le président à vie. Nous avons aussi à défendre une société de liberté. Et je pense que, in fine, quelles que soient les difficultés commerciales, les intérêts, on se retrouvera quand même sur cette ligne-là.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, avec Maria Fonso et Sacha Mitchell du Courrier International. Pour écouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, RFI.fr ou les applis mobiles de RFI, et notamment la petite dernière RFI Pure Radio, elle est gratuite et s'adapte à tous vos smartphones. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, New York, en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.